Bonjour à tous. Je voudrais lire avec vous un passage de l'Évangile, un court passage de l'Évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 31. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Et puis je vais vous lire ce même texte avec la traduction d'André Chouraqui, qui est une traduction que j'utilise beaucoup dans mon travail sur l'écriture et que j'aime particulièrement. Alors, vous pouvez lire le texte qui doit être derrière moi, qui doit être à peu près une seconde révisée ou une seconde, et puis voir les écarts des termes qui sont faits par André Chouraqui, qui était un expert au niveau de la traduction, notamment du grec et de l'hébreu, surtout de l'hébreu. Et il dit ceci en traduisant ce texte. « À nouveau, il sort des frontières de Sor. Il vient par Sidon vers la mer de Galilée, au milieu des frontières des dix villes. » Et voici, il lui amène un sourd qui s'exprime avec difficulté. Il le supplie d'imposer sur lui sa main. Il le prend, l'éloigne de la foule à part, il jette ses doigts sur ses oreilles, crache et lui touche la langue, il lève le regard vers le ciel, gémit et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Vite, ses oreilles s'ouvrent, se délie le lien de sa langue, il parle droit. Il leur défend d'en parler à quiconque, mais plus il le leur défend, plus il le clame d'abondance. Ils sont frappés surabondamment. Ils disent « Il fait bien tout ». Il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors vous verrez qu'au fil de cet échange, de cette méditation, on comprendra un peu les écarts qu'il peut y avoir entre ces traductions. Probablement la première que nous avons lue, c'est celle que vous avez en général dans votre Bible, mais la Bible de Jérusalem, entre autres, la traduction d'André Chouraqui, puis une ou deux autres, sont plus proches du texte hébreu, qui est à l'origine la langue dans laquelle les auteurs des évangiles se sont mis à traduire ensuite avec une traduction grecque, mais l'esprit, c'est l'hébreu original et notamment l'araméen. Alors, j'avais envie ce matin de vous parler de cette rencontre entre Jésus et un sourd qui a des problèmes pour parler. Je dis bien, non pas un sourd muet, parce que dans toutes vos Bibles, je suppose que vous avez un titre avec « Jésus guérit un sourd muet ». Il n'est pas dit qu'il est muet, il est dit qu'il a des difficultés à s'exprimer parce qu'il est sourd. Et vous savez que pour toutes les personnes qui sont touchées d'une pathologie de la surdité, avant l'apprentissage de la langue, il y a des difficultés d'élocution, tout simplement parce que l'élocution, on le verra après, dépend de la manière dont on entend. Donc, nous sommes dans une rencontre un peu particulière entre Jésus et puis ce sourd qui a des difficultés à s'exprimer. Alors, il arrive que la rencontre entre Jésus et ceux qui ont besoin de guérison soit du fait de Jésus. Dans les évangiles, on le voit souvent, Jésus va vers. Et puis, On le voit dans l'évangile de Marc, pour pas aller plus loin, au chapitre 3, verset 3, où il y a un homme à la main sèche, et c'est Jésus qui va à sa rencontre. On le voit dans le texte toujours dans Marc 5, 2, du démoniaque délivré, c'est Jésus qui fait tout un voyage pour traverser le lac et aller vers celui qui a besoin d'être délivré. Et dans d'autres cas, on assiste à autre chose. On en a parlé récemment avec les 10 lépreux. Ce sont eux qui interpellent Jésus. C'est le malade lui-même qui fait la démarche, comme le lépreux, d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 40, qui va vers Jésus. Et je dirais que la guérison est parfois un chemin que Jésus utilise pour annoncer le salut et la rédemption au-delà de la guérison du corps. C'est-à-dire que la guérison et les actes de guérison sont, dans la pensée de Jésus, une manière de révéler à la fois sa divinité, sa puissance, son autorité, mais pas simplement de guérir de la maladie, mais d'annoncer ce qui est au-delà de cela, le salut qu'il peut donner pour l'éternité. Comme me disait un ami pasteur, Lazare est ressuscité. Alléluia! Et puis, il est remort, parce qu'il n'est pas ressuscité pour l'éternité. Il est mort à nouveau. Je ne sais pas si c'était un cadeau pour Lazare de vivre deux fois cette expérience-là particulière du passage de la vie à la mort. Mais toujours est-il que ce qui était important pour Lazare, ce n'était pas qu'il soit ressuscité quelques mois, quelques années, on ne sait pas, mais c'est surtout qu'il ait rencontré le Christ, et quand Christ, lui et ses deux sœurs, Marthe et Marie, et découvert le salut, le pardon des péchés, la sanctification, une vie nouvelle et l'éternité avec le Père. Ici, dans ce texte de Marc, l'initiative de la rencontre entre le malade et Jésus, c'est en fait quelque chose d'assez indéterminé. Volontairement, sur ces chapitres de l'évangile de Marc, il y a des individus qui agissent. On ne sait pas de qui il s'agit. On lui amena, et c'est la suite du chapitre 6 où on voit au verset 54, quand ils furent sortir de la barque, les gens, aussitôt ayant reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. C'est-à-dire que le chapitre 7, c'est la suite de ce on indéfini d'une foule qui se dit il est là, on va lui apporter les malades. Je dis. C'est certainement ce qui doit se passer par rapport à l'Église, non? Tous les « on » qui ont vu et pris conscience de la puissance de Christ et de la présence de Christ dans l'Église, ouvrez les portes, afin que les foules amènent les malades, et surtout que cela puisse être guéri et que le salut de Jésus-Christ soit révélé. Bah, c'est aujourd'hui un peu plus compliqué, a priori, mais à l'époque, en tout cas, cette foule qui est là, à partir du chapitre 6, mais dans tout l'évangile de Marc, entre autres, c'est une foule qui se dit, s'il est là, il faut qu'on lui apporte ceux qui ont besoin d'être guéris et d'être sauvés. Et en quelques lieux qu'il arriva, dans les villes, les villages ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qu'il touchait étaient guéris. La foule. Elle ne réfléchit pas à la personne de Jésus, au message qu'il porte. Elle ne s'intéresse qu'au fait que le résultat est là. Les malades sont guéris. Et c'est peut-être là le problème de ce comportement, parfois, de la foule. C'est l'efficacité du miracle, pas la personne du Christ, qui est au centre de l'intention. Alors que le miracle est pour Christ un moyen de rencontrer l'autre dans son besoin, afin de le faire rentrer dans le salut, de lui faire toucher du doigt le miracle de sa grâce, la révélation de celui qu'il est et jusqu'où il ira dans son amour. Néanmoins, on peut considérer que la foule est remplie de bienveillance à l'égard de cet infirme. Elle prie Jésus de lui... J'aime bien cette notion. Notez dans la traduction de Chouraki qu'on ne retrouve pas dans celle de la seconde. Vous voyez l'écart au verset 32? Oui? Qui a vu l'écart entre les deux traductions, verset 32. Au verset 32, dans la seconde, il est dit, On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Et dans l'autre traduction, c'est on amène un sourd qui s'exprime avec difficulté, il le supplie d'imposer sur lui sa main. C'est un petit écart qui semble anodin. Mais vous verrez que dans la suite du texte, ce n'est pas un écart anodin, parce qu'il y a une logique quant à la main de Christ et comment il l'utilise dans la manière de guérir, de rencontrer et de toucher. Elle prie cette foule, Jésus, de lui imposer la main. C'est un geste thérapeutique, en sachant que ceux qui ont le pouvoir de la guérison peuvent agir. Et le verbe qui est utilisé dans cette phrase, on lui apporta, c'est phéro, ça veut dire porter. Bien. On lui porta quelqu'un, un malade qui était sourd et muet ou qui avait des difficultés à parler. On l'a porté. Ça veut dire que la foule a une attitude bienveillante et fraternelle pour cet homme. On le porte. Je ne sais pas si l'Église est habitée de cet esprit de bienveillance pour porter l'autre, pour le supporter, pour être supporteur. Est-ce que nous sommes des porteurs de l'autre? C'était un terme qui, moi, me dérangeait beaucoup et que j'ai rayé, gommé quand pendant une trentaine d'années, j'ai travaillé soit auprès des personnes en grosse difficulté sociale ou vis-à-vis des malades de rue. Je détestais cette formule qu'on utilisait à tout bout de champ, c'est la prise en charge. Prendre en charge. Je vois qu'il y a Isabelle qui demande avis, c'est ça, hein? Hein, c'est détestable comme formule. Moi, je rayais tout ça quand on me faisait un rapport, etc. La prise en charge du patient. J'avais l'impression d'être un camion et qu'on chargeait de la marchandise. La prise en charge. Ah, mais c'est ça. Prise en charge. On a un matériau, quelque chose qu'on prend d'un point A et qu'on va conduire à un point B. On n'a pas des individus qu'on accompagne dans toutes les dimensions. Jésus n'a pas pris en charge. Il a accompagné. Et l'image la plus belle que j'ai dans les évangiles, notamment de Jean, c'est les disciples d'Emmaüs. Il les a accompagnés. Il ne les a pas pris, mis dans une brouette. Ça fait penser à Mme Goudig, hein, qui transporte son mari du bar du port à la maison avec sa brouette. Non. La prise en charge, c'est pas... Mais ceci dit, là, dans cette notion-là, il y a quand même cette idée que quand l'autre n'est pas en capacité, n'a pas l'autonomie, eh bien, il ne s'agit pas de dénier son autonomie en disant « je te prends en charge, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je te conduis de A à B », mais il y a parfois certaines limites, des moments où l'autre ne peut pas agir, et dans l'incapacité de se mettre en route vers sa guérison, vers le salut, et alors, on est alors un agent bienveillant pour donner l'impulsion, pour donner le mouvement, pour aller dans la bonne direction. On, cet agent inconnu qui pourrait peut-être être nous. Et dans ce texte-là, de guérison, en fait, du sourd ayant des difficultés de parler, nous pouvons être à la fois concernés par cette foule bienveillante et dire, est-ce que je suis de cette foule-là, avec la même nature? Mais on peut être aussi le sourd qui a des difficultés à parler. Vous verrez que ce texte-là est à la fois un texte de guérison, mais aussi un texte, j'ai envie de dire, semblable à une parabole. Je peux être ce sourd qui n'entend pas. Ma femme dirait, tu pourrais être le sourd qui ne veut pas entendre. On a parfois, des discussions très animées, et je considère que elle comme moi, on s'entend pas. On est sur notre position. On en a eu une hier, je crois. Et puis là, on est là. Et, oui, mais tu m'écoutes pas. Oui, bah, toi non plus. Parfois, on est aussi dans cette position-là par rapport au Seigneur, de ne pas l'entendre. Et on verra que ne pas entendre a des conséquences. Alors, est-ce que déjà, nous pouvons être semblables à cette foule, un on bienveillant? Est-ce que nous pouvons être des porteurs, des supporteurs pour ceux qui sont blessés et meurtris? Et si nous le sommes, je peux vous assurer que le monde est rempli d'hommes et de femmes qui sont blessés, meurtris et qui ont besoin d'être portés ou accompagnés dans la bonne direction vers le Christ. Ici, dans ce texte-là, la bienveillance est de mise. Elle est même au centre du texte. J'ai envie de dire que la bienveillance est vraiment ce qui caractérise ce texte de guérison. En terre étrangère, de Tyr et Sidon, aux abords de la région de la Décapole, c'est-à-dire toute une région, si vous prenez Tyr-Sidon, c'est sur la côte ouest, mais nord des territoires qu'occupe Israël, mais terre étrangère. Et moi, j'aime bien, depuis quelque temps, vérifier quel est l'itinéraire que Christ prend. C'est jamais en ligne droite. Moi, ça me rassure, parce que je suis un peu comme ça. Je prends rarement les lignes droites, ce qui n'est pas le meilleur pour aller voyager. Mais ici, il est dit qu'il est parti de Tyr à Sidon. Et en fait, si vous regardez la Décapole, c'est en dessous et au sud-est. C'est-à-dire qu'il fait toute une boucle. Il va en Décapole, mais en remontant vers le nord, puis ensuite en descendant vers l'est et le sud. Et donc, quand je vois ça, je me dis, mais Christ, finalement, c'est pas le conduire là où se trouvent les besoins. Ce n'est pas une logique pratique. Il va là où il y a besoin. Et quelque part, j'ai envie de dire, il nous trouvera toujours. Alors bien sûr, on utilise ce verset des psaumes qui dit « Si je vais jusqu'à l'extrémité de la terre, tu me retrouves, etc. » Oui, mais c'est lui qui fait le chemin là où nous sommes. Et ce sourd et muet, quand on lit ce début, à nouveau, il sort des frontières de sort, il vient. Alors, il vient par Tyr, Sidon, vers la mer de Galilée, dans la Décapole. C'est-à-dire que Christ est capable d'aller nous rencontrer là où nous sommes, aussi loin que nous soyons dans notre silence, enfermement, dans notre séparation ou dans notre exclusion voulue par nous par rapport à lui. Il fera tout le chemin nécessaire. Et moi, quand je vois cette boucle qu'il fait, je dis, waouh, je comprends pourquoi il m'a trouvé. Parce que moi aussi, j'étais dans une Décapole pas très intéressante, et il a fait ce chemin-là. Mais pourquoi va-t-il à l'étranger, alors qu'il est là pour annoncer la bonne nouvelle au peuple d'Israël ? Eh bien, en fait, la brèche a été ouverte quelques versets au-dessus. Si vous regardez, le texte que nous venons de lire commence, en fait, il est dit qu'il est allé à Tyr et que là, il a trouvé sur le territoire de Tyr une femme syrophénicienne qui lui demande de délivrer sa fille d'un démon. Et vous vous rappelez la réaction de Jésus ? Il a dit « Laisse d'abord les enfants d'Israël se rassasier. Il n'est pas bien de jeter le pain aux petits chiens. » Ça choque beaucoup, y compris aujourd'hui, pour les chrétiens, en disant, mais pourquoi dit-il cela ? Parce que sa mission, c'était en tant que Messie d'annoncer la venue et les promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu par rapport à Israël, qui serait le moyen d'annoncer le salut aux nations. Donc, il est dans cette logique-là de sa mission. Mais néanmoins, quand cette femme l'interpelle parce qu'elle a un besoin, délivre ma fille, à ce moment-là, il est étonné par sa réponse. Je ne vais pas donner le pain aux petits chiens, ce n'est pas encore le moment. Oui, mais les petits chiens peuvent être sous la table et prendre et se rassasier de ce qui tombe. Et Christ est émerveillé par la foi de cette femme étrangère. Et il dit, retourne chez toi, tu trouveras ta fille guérie. C'est la brèche. La brèche qui fait qu'au verset suivant, il part de Tyr et Sidon et qui va dans la Décapole, c'est-à-dire une région étrangère aussi, et que là, ce sourd-muet lui est apporté. Et là, il accomplit la guérison d'une manière naturelle. La brèche syrophénicienne fait que le salut continue à être annoncé, voire même que Christ touche, et pas de n'importe quelle manière, un étranger, ce qui pour un juif était un acte de souillure. Mais la brèche est ouverte par la syrophénicienne pour que le salut aille déjà vers les nations, parce que c'est aussi le plan de Dieu. Et là, on est confronté à la bienveillance de Jésus. On n'a aucune indication sur les sentiments qui habitent Jésus à première vue. Jésus prend l'infirme à l'écart. Il l'emmène. Alors, et c'est là que la traduction d'André Chouraki, quand il est dit que la foule lui, le supplie d'imposer sur lui sa main, on s'aperçoit qu'en fait, la notion de main est une notion importante et qu'elle dit quelque chose de la bienveillance de Jésus. Parce que le verbe qui est utilisé par l'évangéliste Marc, c'est « apo lambano apo ». C'est-à-dire qu'il insiste lourdement sur le fait que Jésus prend le sourd-muet par la main. « Apo lambano apo », c'est dire « il l'a pris par la main, il l'a pris ». C'est dire si il insiste sur cette notion. Il le prend par la main pour l'emmener à l'écart. La foule avait demandé d'imposer la main de Jésus, le premier contact de Jésus, et de le prendre par la main pour le conduire à l'écart. J'aime cette lecture de l'Évangile, parce que ça parle de la douceur dans la relation que Jésus pose avec cet homme, mais aussi la volonté de ne pas entrer dans un geste liturgique, mécanique. Voilà, je voudrais que vous priez pour moi parce que je suis malade. Bon, allez, assieds-toi, on va te poser les mains. Dans nos milieux, c'est souvent quelque chose, on le fait, on dit, c'est un acte d'obéissance. Oui, mais est-ce que parfois ce n'est pas un acte mécanique, liturgique ou devenu liturgique? Jésus dit, attends, avant de t'imposer la main, je vais te prendre par la main. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est te conduire à l'écart. Ce que nous faisons souvent dans notre attente, notre demande, c'est « vas-y, impose-moi les mains ». Et ce qu'on propose aux autres, c'est ça. « Viens, je vais prier pour toi ». Proposition, sans forcément prendre l'autre par la main. Prendre quelqu'un par la main, vous savez, hein. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans votre entourage que vous prenez par la main pour le conduire. On le fait dans le couple, j'espère. On le fait vis-à-vis de ses enfants ou de ses petits-enfants. Mais c'est très rare qu'on étende ce geste de tendresse, de guidance avec quelqu'un d'autre. Réfléchissez. Non ? Quand vous allez au garage pour réparer votre voiture, vous ne prenez pas le garagiste par la main en disant « je vais vous montrer ma voiture ». Non, je connais quelqu'un qui est en train d'acheter une voiture, tu ne fais pas ça. Non. Non. C'est un acte de tendresse, de douceur. Et c'est aussi la douceur de Christ précède sa guérison. La révélation, la volonté de Christ de dire « je vais prendre du temps avec toi, me prendre par la main, c'est dire, je veux te conduire dans un temps de communion, de relation profonde avec moi. Je ne suis pas simplement que celui qui répond à ta prière pour être guéri. Je veux être plus que cela. Apo lambano apo. Il le prit par la main, il le prit. Il l'a emmené par la main à l'écart. Alors je me dis, pourquoi l'emmener à l'écart? Autant faire le show devant la foule, pour en récolter les fruits, pour être acclamé, applaudi. Waouh, il est génial! Non, il l'a pris à l'écart. Quand je travaillais pendant très nombreuses années, une des caractéristiques que j'ai toujours voulu vivre, c'est que ma porte de bureau était toujours ouverte. Donc les collègues pouvaient rentrer, les malades aussi, on frappait à la porte ouverte, et puis je disais oui ou non, mais c'était ouvert. Mais dès que je recevais un collègue ou une collègue dans le bureau, ou une patiente, je refermais la porte en laissant rideau ouvert par mesure de sécurité pour que ce soit visible, mais la porte se refermait parce qu'il n'était pas question que ce que la personne pouvait dire soit entendu par quelqu'un d'autre. L'écart, c'est se mettre dans une position de relation duelle. À l'écart, on pourrait se poser des questions par rapport à cet homme qui est déjà exclu, isolé. On le prend, puis on va encore augmenter son isolement. Oui, mais Christ veut un tête-à-tête. De la même manière que dans sa relation avec nous, ce que Christ veut privilégier avant tout, c'est sa relation personnelle avec moi, quels que soient mes besoins. Et il est capable de me prendre par la main, pour dire, ben, et si on allait ensemble prendre du temps en tête-à-tête? « Ah, mais Seigneur, j'étais déjà à l'église avec 30 personnes dimanche. Est-ce qu'il y a besoin qu'on se retrouve en tête à tête ?» Véritablement. On pourrait se poser la question sur la foi de ce malade, ce sourd muet. Finalement, il est porté par la foule. Ensuite, Jésus le prend par la main. Quel passif ! Une passivité extraordinaire. Il est là et il se laisse faire. Mais, j'ai envie de dire, c'est peut-être là le commencement de la foi. Il se laisse faire et conduire par la main. Et peut-être est-ce cela qui nous manque dans notre relation bien souvent avec Christ, nous laisser faire. Nous laisser conduire par la main. Rappelez-vous cette parole de Jésus à la fin de l'évangile de Jean à Pierre. Un autre te prendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas. La foi de ce sourd muet, elle est déjà manifestée par le fait qu'il se laisse faire, conduire par la main. Une main, c'est rassurant. Ce n'est pas une main qui est là pour le tirer, vous savez, avec violence. C'est une main qui est là, fais-moi confiance, je t'emmène avec moi. Et on va se retrouver, toi et moi. Est-ce qu'on est capable, dans notre relation avec Christ, de lui faire cette confiance-là? Bien sûr, je suis dans ma souffrance, dans mes interrogations ou dans mes peurs, mais je veux, je souhaite me laisser faire par toi, me laisser conduire. On a parfois des capacités ou des velléités de résistance pour empêcher Christ de nous conduire vers le meilleur. Mais j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, et puis dans quel but, etc. Et on résiste. Laisse-toi conduire, laisse le Saint-Esprit te convaincre de la bienveillance de Christ pour toi, pour moi. Il veut le meilleur pour toi. J'imagine le sourd qui dit mettrait ses mains sur les oreilles. Je ne le fais pas parce que sinon je ne vous entends plus du tout. Donc, qui ferait ça, qui dit non, non, me touche pas, me touche pas. Non, 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 et puis je ne veux pas te suivre. Il s'est laissé faire, il s'est laissé conduire. Jésus a prié, il est allé à l'écart. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand il est dit que Jésus est allé à l'écart, c'était pour aller prier. Et c'est un indicateur. D'un Jésus qui prend du temps pour entrer en relation avec son Père. Alors cet étranger de la Décapole, un non-juif, on ne sait pas quelle est sa culture, mais il ne savait pas ça. Simplement, il a fait confiance et il est allé à l'écart. Vous savez que l'écart, se mettre à l'écart, c'est déjà une définition de l'Église. Hors d'eux. L'Église, ecclésia en grec, c'est un élément qui est mis à l'écart du monde, en dehors. Eh bien, Christ, quelque part, l'emmène en dehors, dans un espace, en tête à tête et en face à face avec lui. Et il se laisse conduire dans un temps qui est un temps de prière. Et là, Jésus fait quelque chose d'étrange. Hein. Ça, c'est... Vous imaginez, je suis allé voir mon médecin... pour un renouvellement de traitement, si elle avait commencé à cracher et puis à prendre sa salive pour me dire « Bon, attendez, je vais vous examiner. » On va peut-être respecter les gestes barrières. hein Il jette ses doigts sur ses oreilles, crache et lui touche la langue. Ah, il y a un exégète, j'ai trouvé intéressant, parce qu'il dit ceci, Jésus a des gestes d'un médecin qui, s'adressant à un sourd, lui montre où il va intervenir. Tes oreilles, ta langue, puisque tu as du mal à parler. Donc finalement, c'est vrai, on oublie qu'il est, il est sourd et que finalement, on ne peut pas dire, bah, attends, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Bah oui, mais il n'entend pas. Donc, il touche les oreilles. Alors, la salive, dans l'Antiquité, c'était considéré comme quelque chose qui était sain et thérapeutique. C'est-à-dire que la salive était quelque chose qu'on pouvait utiliser. En fait, le texte qui disait que l'homme avait des difficultés à parler insiste sur cette différence et que la parole s'acquiert et se développe par notre capacité à écouter et à voir. En fait, on parle d'autant mieux qu'on apprend à écouter. On a la petite Maëlys qui est avec nous, et je ne sais pas si elle parle déjà, mais en tout cas, elle écoute. Et c'est cette écoute qui lui donne la capacité de répéter, d'imiter, aussi par le regard. La grande conséquence de la Covid sur le développement des enfants, et ce que les pédopsychiatres qui en parlent, c'est la difficulté de développer le langage. Parce que le masque qu'ont les adultes fait que ça brouille les sons, et ça brouille aussi, on ne voit pas les lèvres articulées, donc les enfants, on a une petite fille qui a eu des grosses difficultés, et qui s'en sort maintenant, mais au bout d'un an et demi, et qui arrive maintenant, elle a été voir un spécialiste pour pouvoir apprendre à parler, parce qu'à l'école, elle ne voyait pas la bouche des maîtresses, etc., et donc elle a eu du mal à articuler, à entendre, etc. Donc, il faut d'abord déboucher les oreilles pour pouvoir parler. Je trouve que dans ce texte-là, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire ça aussi. Parler et avoir une parole qui soit celle de Dieu, qui dise Dieu, ça commence par écouter Dieu. On a reçu un message de quelqu'un qui disait « Qu'est-ce que vous pensez de ça, de tel mouvement ou de telle orientation ?» Eh bien, mon souci à l'heure actuelle dans le mouvement évangélique, c'est de voir une branche du mouvement évangélique qui est moins à l'écoute de Dieu qu'à l'écoute de ses propres pensées, de ses propres concepts, et qui donc dit des choses qui correspondent peu ou pas à la pensée de Dieu, et qui sont peu ou pas dirigées vers Christ et pour Christ. Alors évidemment, il y a un discours qui nous semble « Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant, ouais, il y a... » Puis tout à coup, on se dit, ah ben oui, mais où est Christ là-dedans? Où est la proclamation de Christ, du salut? Et là, on s'aperçoit qu'il y a un écart, parce qu'on n'est pas dans l'écoute, prêt à entendre ce que Dieu veut pour moi, mais aussi pour ce monde. On a entendu Sabrina Garandel, cette femme qui est missionnaire, elle n'est pas partie pour devenir... leader évangélique, c'est au Bénin, c'est ça? C'est ça, hein? Au Bénin. Non, elle est partie parce qu'elle a été pendant près de 20 ans à l'écoute de Dieu et que sa parole est là pour proclamer Christ. Grande différence. Alors, est-ce que ce n'est pas un enseignement, cette histoire de guérison de ce sourd qui a des difficultés à parler, n'avons-nous pas besoin d'apprendre, voire de guérir notre capacité à entendre pour pouvoir parler, pour apprendre à parler? Combien nous voudrions, et c'est la traduction du texte, vous avez vu, hein, vite ses oreilles s'ouvrent, se délie le lien de sa langue et il parle droit. Et en fait, en grec, c'est kai elalei orthos. Orthos, c'est ce qu'on retrouve dans orthodoxe. Orthodoxe, c'est une doctrine droite. Droite, l'orthodoxie, c'est droit, fidèle. Eh bien là, la guérison fait que se délie le lien de sa langue et il parle droit. Est-ce qu'il ne s'agit pas de réapprendre à parler droit, la droiture de Dieu, et non pas, c'est le vers de Victor Hugo, quand il parle de Bose dans son poème sur la rencontre de Bose avec Rude, il dit c'était quelqu'un qui marchait droit, dont là où on ne proposait que des sentiers obliques. Il marchait droit à Bose. Est-ce que nous n'avons pas, au milieu de ce monde qui utilise des paroles obliques et de travers, à apprendre à porter une parole droite et fidèle? Cela n'est possible que si nous sommes capables de guérir notre manière d'entendre Dieu. Dans cet acte de guérison, on a le sentiment que seul Jésus est acteur et actif. Le malade semble toujours aussi passif. Il se laisse faire, mais c'est sa foi. La communication est unilatérale. Et oui, une communication par geste. Je vais guérir tes oreilles, je vais guérir ta langue, et puis etc. Mais le malade sait que ces gestes sont ceux qui lui sont nécessaires. Est-ce que parfois on peut aussi être un peu réfractaire à ce que Dieu veut faire en termes de guérison dans notre vie ? En disant, oh là là, moi Seigneur, tu sais, j'ai pas trop envie que tu touches là, j'ai pas envie de changer ça, etc. Et est-ce qu'on peut faire confiance à Christ sur ce qu'il doit et veut accomplir ? Alors, dans ce texte-là, il y a Jésus qui explique, il dit, voilà ce que je vais faire. Et il lève les yeux vers le ciel. Ça veut dire que quand il fait ce geste-là, c'est une attitude compréhensible dans le sens où, pour cet homme de la décapole, comme pour n'importe qui, quand on commence à lever les yeux au ciel, c'est qu'on va prier. Donc, on l'a dans le chapitre, enfin, quelques versets au-dessus, au chapitre 6, verset 41, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, il pria. Ça veut dire que quand Jésus se met dans cette position face au sourd muet, il dit, ben voilà, je vais prier. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors après, il y a une phrase, il dit, ouvre-toi. Mais ce n'est pas la prière, ça. Ça, c'est l'après-prière. C'est l'effet de la prière. Il est dit, il leva les yeux vers le ciel et il... Non. Il gémit. Il gémit, c'est ça une prière ? Est-ce qu'on peut prier en gémissant ? En fait, on s'aperçoit que ce terme qui est... Il y a plein de termes dans l'évangile de Marc qui sont uniques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le fait que Christ gémit, c'est-à-dire qu'il exprime dans sa prière toute la souffrance à la fois de l'autre, mais aussi sa souffrance à lui de voir l'autre enfermé dans sa maladie. Christ a gémi. C'est la seule fois où on dit il lève les yeux au ciel et il gémit. C'est sa prière. Ça veut dire qu'il y a tellement de compassion de Christ pour cet homme qu'il ne peut exprimer autre chose qu'un gémissement. C'est l'expression de son cœur, de son ressenti. Sa prière se réduit un gémissement. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui nous habite parfois quand nous sommes dans une souffrance extrême ? Est-ce que ce n'est pas parfois notre manière de dire « j'ai trop mal, fais quelque chose ». Moi, ça m'arrive d'avoir des crises de douleur extrêmes et d'être plié en deux, à genoux, par terre. Je peux vous dire, je ne suis pas en train d'élaborer une prière en disant « Bon Seigneur, je voudrais te dire quelque chose, mais je ne sais pas quand. Je voudrais te dire que ça serait bien que tu viennes. » Puis que tu... Non, je fais « Ah !» Combien parmi nous, et pas seulement pour des douleurs physiques, ne peuvent exprimer leur détresse et leurs besoins que par le son d'un gémissement profond. Mais est-ce que Dieu va pouvoir décoder votre gémissement ou le mien ? Vous rappelez d'Étienne ? Étienne, quand, avant d'être lapidé, il a expliqué cet évangile aux Juifs qui allaient le lapider. Et il parle du peuple qui était esclave en Égypte. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Et il reprend en fait le passage d'Exode 2, 23. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. notre Dieu est un Père, est un Dieu plein de compassion qui entend nos gémissements et qui intervient. Paul ira jusqu'à dire dans Romains 8, 23, le chapitre préféré de Michel, que Dieu entend un gémissement intérieur. Nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes et Dieu entend. Vous savez, je pensais à ce passage-là en me disant, n'ayons pas honte des gémissements qui montent de nos lèvres pour atteindre le cœur du Père. Un cri, j'ai envie de dire qu'un cri, c'est un auteur que j'aime bien, cherche le plus souvent une oreille humaine, un cri. Oh ! On cherche à atteindre l'oreille de l'autre. Un gémissement n'en cherche même plus. Il n'en a plus la force. Mais Dieu tend l'oreille avec amour et il se fait attentif au gémissement de son enfant. Et je pensais à cela parce que quand nos enfants étaient petits et que Francine et moi étions couchés dans notre chambre, tout à coup, elle disait, ah, il y a Elisabeth qui est en train de pleurer. À l'époque, j'avais mes deux oreilles.
Si, si.
Et moi, je disais, mais j'entends rien. Elle dit, si, si, il y a quelque chose. Elle se levait. Puis effectivement, notre fille gémissait, pleurait, sanglotait. Elle l'avait entendue. Parfois, c'est dans Pagnol, dans la deuxième partie, c'est Fanny. À un moment donné, Fanny est avec toute la famille, avec l'arrivée inopinée de son ex-bien-aimé, Marius, et ils sont en train d'essayer de régler les comptes, puis tout à coup, elle a eu un enfant qui est dans une pièce à côté, et à un moment donné, « Oh ! Césario est en train de pleurer. » Et les autres sont là, et Marius qui dit, mais non, 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 on n'entend rien. Hein. Et puis tout le monde commence à s'inquiéter. Et puis Marius dit, mais est-ce que ça ne serait pas à moi, son père, de m'inquiéter pour lui? Et Fanny lui répond, non, c'est pas Fanny, c'est Panis, le père adoptif, dit, oui, mais toi, tu ne l'as pas élevé. Tu ne l'as pas aimé comme nous l'avons aimé. Alors c'est notre amour qui l'entend. Dieu et son amour entend nos gémissements. Et là, Jésus gémit, et il le fait devant un homme qui ne pouvait faire que cela, ce sourd et muet. Il ne pouvait que gémir, c'est-à-dire qu'il se met au même niveau que le sourd muet pour exprimer sa souffrance et s'adresser au Père, parce que Jésus ne pouvait faire que ce que le Père lui donnait la possibilité de faire. Et il se met au niveau. Et c'est pour cela que notre Seigneur est unique. Parmi tous les dieux que le monde propose, les faux dieux, notre Dieu est un Dieu qui en Christ est capable de dire notre souffrance, levant les yeux au ciel. Alors, je terminerai ici avec juste la fin de ce texte qui dit qu'à un moment donné, quand la guérison est accomplie, la foule... et là, ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Un jour, il y a un pasteur qui s'est trompé, il dit, il fait entendre les muets et parler les sourds. Mais là, il n'y avait rien de miraculeux. Il y en a qui n'ont pas suivi. Vous réécouterez la prédication. Mais ils disaient, ils étaient dans le plus grand étonnement. Et je suis allé vérifier, parce que dans la traduction de Chouraki, il est dit, Ephata, ouvre-toi. Et l'invitation ce matin que je voudrais nous laisser, ouvre-toi. Ouvre-toi. Et dans le texte, c'est du grec, mais c'est d'une expression d'origine araméenne. Et le ouvre-toi, c'est à la fois ouvre-toi, reçois, mais ouvre-toi, sois disponible, fais la démarche pour recevoir. Ouvre-toi. Ne pas s'ouvrir à ce Christ qui nous rencontre, c'est se priver de sa grâce et de sa bénédiction. Ouvre-toi. Tu peux entendre. Tu peux être guéri et entendre les mystères de Dieu. Ouvre-toi et tu peux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et il est dit que la foule était dans l'étonnement, et il est dit dans le texte, la traduction d'André Chouraki, « Ils sont frappés surabondamment. » Pas facile comme terme. Hein. Et comment être frappé surabondamment? En fait, c'est un hyper périssos. Hyper périssos. C'est un adverbe qu'on retrouve que là. Être surabondamment étonné par le miracle et la grâce de Dieu. Alors, on retrouve le verbe qui est utilisé deux fois. Et ce n'est pas par hasard. Ils ont été étonnés surabondamment. Ils sont frappés surabondamment. Parce que le verbe de cet adverbe, il ne figure que deux fois dans les lettres de Paul. C'est « La loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Et on retrouve ce verbe de cet adverbe. Ils ont été étonnés surabondamment par l'action de Dieu dans leur vie, parce que la grâce en Christ a surabondé. « J'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. » Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit « Je suis surabondé par la joie. » Est-ce que vous êtes surabondé par la joie et surabondé par la grâce de Dieu? Voilà quelques méditations à partir de cette guérison qui, pour moi, est plus une parabole qui nous parle. Est-ce que nous voulons nous ouvrir? Est-ce que nous voulons être ouverts? Est-ce que nous voulons recevoir ce que Christ a prévu pour nous? Amen.